being really here, you know, really in, really alive.
Monte le son. Prune est en direct de Scopitone, le festival des cultures électroniques et arts numériques. Jusqu'à 19h, découvre les artistes de la programmation depuis la terrasse de Stéréolux. L'émission spéciale Scopitone, c'est tout de suite sur Prune 92 FM et prune.net.
Il est 18h, très chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Vous écoutez Prune sur le 92 FM pour une émission un peu particulière. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau spécial Scopitone, car oui, l'édition 2021 a lieu en ce moment même depuis le 8 septembre jusqu'au 19. Organisé par le Stéréolux, le festival est un rendez-vous de dimension internationale dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Évidemment, je ne serai pas seule pour cette émission, je serai entourée de mes acolytes intervieweurs et bien évidemment d'invités de marque, notamment Bird Signal, interviewé par Titouan, Barthélemy Antoine Loeuf et Frieder Nagel, interviewé par Hortense, et bien évidemment Cédric Huchet, programmateur art numérique. Mais alors Scopitone, c'est quoi ? C'est le rendez-vous annuel dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Il attire chaque année plus de 50 000 festivaliers et festivalières et met en avant près d'une soixantaine d'artistes. Au programme, des concerts et des performances, des créations et installations artistiques, des conférences, des workshops, mais aussi, surtout, des rencontres. Et en parlant de rencontres, je vous propose de commencer en compagnie de Cédric Huchet. Cédric Huchet, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis 3 jours, Scopitone est de retour pour une 19e édition, un retour attendu par tous et toutes, et qui doit vous procurer beaucoup de plaisir, j'imagine, parce que, bon, voilà, après une année blanche pour cause de pandémie mondiale, le festival a dû être annulé l'année dernière. Comment vous avez appréhendé l'édition de cette année ?
On l'a appréhendé comme un retour à la vie. C'est vrai que l'édition de 2020... Alors en fait, elle n'a même pas été annulée, elle n'a pas été montée tout simplement. Mmh. On a décidé très en amont, enfin, au tout début de cette drôle d'histoire là, de pas lancer un festival dont on savait qu'il allait être très compliqué à mener, voire pas possible. Mais là, quand on a travaillé cette édition, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'une année de renouveau et qu'il nous fallait envisager quelque chose, quelle que soit la situation de la rentrée. C'est pour ça que peut-être des fois le public n'a pas très bien compris pourquoi il n'y a pas de nuit électronique, pourquoi il n'y a pas de gros dance floor, pourquoi il n'y a pas de soirée sous les nefs ou ailleurs. En fait, on s'est dit, voilà, on monte un festival, il a fallu le boucler au mois de mai. Au mois de mai, la situation de septembre était totalement floue pour tout le monde. Et on s'est dit, on fait quelque chose qui pourra voir le jour, qui pourra naître, qui pourra vivre, quelle que soit la situation. Et à cela, était beaucoup plus adapté le contexte des expositions et de soirées qui se font en collaboration avec le Warehouse, mais qui, pour ce premier week-end, sont des soirées en configuration assise. Mmh. Et le deuxième week-end, qui était aussi pressenti pour être une configuration assise, a finalement pu être libéré et ouvert dans un format plus classique, c'est-à-dire debout, même si c'est une soirée assez courte. Mais en tout cas, voilà, le postulat de départ était de se dire « on fait quelque chose ». Et quand on a pris cette décision, ma foi, on s'est lancé avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, d'envie, d'espoir à relancer cette manifestation et à faire en sorte qu'elle existe cette année.
Cette année, nous pouvons d'ailleurs profiter de l'exposition Hypernature, qui comporte à peu près 17 installations, si je me trompe, qui amène une réflexion autour de notre rapport à la nature, mais plus globalement à l'écologie. Cédric, est-ce là une volonté de votre part de sensibiliser et d'aborder ce sujet d'actualité ? Est-ce que c'est votre fil rouge, si vous fonctionnez ainsi ?
Alors, c'est carrément le fil rouge. C'est la première fois qu'on a vraiment instauré un titre ou un nom à l'exposition. Donc ça circonscrit un peu les choses, mais effectivement avec Hypernature, on voulait parler du rapport du numérique et des nouvelles technologies, enfin des technologies de manière générale à la nature, à travers 3 idées fortes. La première, c'est la façon dont les artistes vont fantasmer, sublimer, reproduire la nature, quelque part faire une sorte d'hymne aussi à la nature. La deuxième approche qui peut être complémentaire à celle-ci, c'était un regard critique ou un questionnement très très fort, assez grave parfois aussi, sur l'impact qu'on peut avoir sur la nature et l'impact humain notamment, ou de l'activité humaine d'une manière générale. Et puis le troisième, qui est une petite note d'espoir, parle de choses qui sont plus liées au surnaturel, plutôt dans son sens étymologique, pas forcément ésotérique, à savoir les phénomènes ou les faits ou les observations qu'on ne peut pas forcément reproduire, qu'on ne peut pas forcément expliquer, qu'on ne peut pas forcément sentir ou appréhender, et qui donnent à voir avec le langage artistique, évidemment, des interprétations, des visions souvent très poétiques. Donc on voulait cette note d'espoir. Le contexte actuel n'y est pas complètement pour rien. À la fois, c'est important de souligner que toutes ces œuvres-là sont des œuvres assez récentes, des œuvres très contemporaines, mais ce ne sont pas des œuvres qui ont été créées après la pandémie ou pendant la pandémie. Elles sont nées et elles ont été maturées pendant la pandémie parfois, mais elles sont nées avant. Donc elles relatent sans doute une démarche artistique intéressante qui est très contemporaine, elle aussi très actuelle dans des prises de conscience d'évolution écologique, climatique, d'impact, de réflexion sur le futur et sur ce qu'on doit, la conscience qu'on doit avoir de ce qu'on fait ou la conscience qu'on doit avoir de ce qu'on ne fait pas toujours. Et finalement, les artistes s'en emparent très bien et apportent une caution très forte avec leur création sur ces prises de conscience.
Alors, il est vrai que ces sujets liés à l'écologie, avec un prisme artistique, comme vous le dites, et assez contemporain, nous montrent un choix des artistes très éclectiques, comme par exemple le travail de Justine Aymar, qui aborde le sujet des abeilles et de leur communauté dans son projet Supraorganisme, ou encore Floralia, proposé par l'artiste Sabrina Raté, qui nous transporte dans un monde qui laisse entrevoir le passé des espèces disparues dans un musée virtuel. Toutes ces installations, vous pouvez les retrouver au Stéréolux, hormis une proposition artistique nommée Passenger, celle de Guillaume Marmin qui se déroule au Jardin des Plantes. Comment d'ailleurs avez-vous sélectionné les artistes et leurs propositions ?
Il y a plein de vecteurs pour ça, mais on a la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de professionnels, de festivals, de biennales, de lieux culturels qui travaillent un peu sur les mêmes registres et les mêmes champs artistiques que nous. Après, on reçoit aussi des sollicitations des artistes ou des informations ça et là qui nous arrivent. Et puis, on va chercher, on va creuser, on va aussi accompagner des artistes. Mmh. Guillaume Marmin en est un bel exemple. Hein. C'est un fidèle de Scopitone. Je crois que ça doit être sa 5e ou 6e édition. Mais voilà, c'est un artiste précieux, prolifique et très, très intéressant. Et c'est au gré des rencontres, des échanges, des discussions, des recherches. Bon, Internet est une mine d'or sur ces questions-là, mais nos relations et avec d'autres événements, d'autres organisations en France et à l'étranger aussi. On a un panorama beaucoup plus européen, pour ne pas dire français, cette année. Le contexte y est clairement pour quelque chose. Scopitone a l'habitude de voyager ou de faire voyager au-delà de nos frontières et au-delà de l'Europe. C'était un peu compliqué cette année. On voulait s'assurer encore une fois de la faisabilité du festival. Donc il y a quand même une belle petite parenthèse, un coup de projecteur sur les artistes belges ou les provenances de Belgique, et puis sur les artistes canadiens ou québécois, à travers Sabrina Raté que vous avez cité, ou Tim Maker qu'on va voir ce soir. Mais autrement, c'est vrai que c'est plutôt français, mais les ressources d'inspiration et de recherche sont multiples. Mais effectivement, au sein du réseau professionnel, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de choses qui circulent, et d'informations et d'échanges de points de vue, de pensées qui nous amènent aussi à découvrir des choses.
Et alors, entre nous, est-ce que vous avez des petits coups de cœur ?
C'est la question qu'il ne faut jamais poser, ça. Bien sûr qu'il y en a des coups de cœur, mais ils sont tellement subjectifs et personnels. Si vous n'avez rien dit avant, j'aurais cité Sabrina Raté et Justine Aymar. Incontestablement, Justine Aymar, parce que c'est un peu la première fois qu'elle travaille de cette façon-là, avec une installation avec une dimension plastique très forte. C'est du verre soufflé, c'est très beau, des belles sculptures, avec du scintillement métallique à l'intérieur, un son très cristallin. On est sur quelque chose de minimal, qui n'est pas si numérique que ça, finalement. À travers ça, elle parle quand même de celles qu'on baptise souvent les sentinelles de notre système écologique, à savoir les abeilles qui sont l'objet de toutes les attentions et de toutes les peurs aussi. Voilà, c'est une artiste qui est vraiment hyper sensible sur ces sujets et son œuvre le dégage aussi. Après, Sabrina Raté je pense aussi à Anne-Sara Lemeur avec Bivermi. C'est marrant parce qu'Anne-Sara Lemeur, c'est un peu ça peut paraître un peu comme étant l'ovni à Bivermi, cette installation dans le parcours de ses œuvres. À la fois, elle travaille sur quelque chose qui est très pictural, qui est un travail très profond, très sensible et très réfléchi sur la couleur, sur la façon de la composer, de la recomposer, de créer des tableaux picturaux avec du 3D, avec du numérique, avec du code. C'est une artiste assez ancienne dans la sphère du numérique, mais qui a toujours été extrêmement précise et extrêmement contemporaine dans sa façon d'aborder les choses. Voilà, il y en a plein que je voudrais citer aussi, parce qu'il n'y a pas de choix de seconde zone dans cette sélection. Mais voilà, c'est ce qui peut permettre peut-être de donner envie au public de visiter.
Alors on encourage nos auditeurs et nos auditrices à venir voir les expositions qui se passent un peu partout dans Nantes. Mais c'est déjà la fin, malheureusement, parce que nous avons aussi d'autres invités.
Parce que je suis bavard. Ah.
Merci en tout cas, Cédric, de nous avoir consacré un peu de temps.
Merci à vous.
De rien. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
Cultures électroniques et arts numériques, le festival Scopitone en compagnie des artistes, c'est maintenant sur Prune.
Vous êtes toujours sur les ondes de Prune. Vous venez d'écouter le morceau intitulé Starting Over Again de Tim Aker, tiré de son dernier album The North Waiter, sorti tout récemment le 9 septembre et qui fera d'ailleurs une prestation live ce soir au Warehouse. Passons tout de suite à la prochaine interview d'Hortense avec Barthélemy Antoine Loff qui nous a accordé un peu de son temps entre deux répétitions.
Barthélemy Antoine Loff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste plasticien spécialisé dans les arts optiques et numériques. Votre travail fait appel à notre émerveillement d'enfant, notre contemplation première face à des problèmes majeurs comme la fonte des glaces ou encore le changement climatique. Pour l'exposition Hypernature qui se déroule à Scopitone cette année, vous nous proposez l'œuvre Tipping Point. Sous une cloche de verre d'une quarantaine de centimètres se trouve un glacier au format de poche, alimenté toutes les heures par une goutte. Le glacier grandit le temps de l'exposition. Avant d'arriver à Scopitone, votre œuvre a pris un aspect curieux pour rebondir face à la crise du Covid. Les particuliers avaient la possibilité d'accueillir l'iceberg dans sa cloche chez eux. Peut-on toujours devenir un éleveur de glaciers ?
Alors oui, on peut devenir encore un éleveur de glaciers puisque ce glacier que j'ai créé et auquel j'ai invité les particuliers à participer en fait finalement à l'aventure existe toujours. C'est une initiative que j'ai lancée quand nous, artistes, n'avions pas la possibilité d'exposer du fait de la crise sanitaire qui a imposé aux lieux culturels finalement de fermer. Et à la suite d'une énième expo qui n'a pas ouvert, j'ai décidé d'aller déposer ce fameux glacier chez les particuliers et les inviter à devenir éleveurs du glacier. J'ai eu la chance d'être soutenu par un lieu culturel qui s'appelle le Maïf Social Club, qui est un lieu d'exposition à Paris, qui a été le premier à exposer finalement ce glacier-là dans son lieu d'exposition, qui s'est retrouvé à fermer les portes de son lieu d'exposition à cause de la crise. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'appuyer finalement pour aller déposer ce glacier-là chez les particuliers. Et ça a créé une aventure qui est assez chouette, puisque finalement les gens se sont relayés pour recevoir ce glacier en devenir, ce petit glacier, dans leur salon, avant de passer la main au suivant.
Peut-on reproduire un glacier chez soi ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est très compliqué de reproduire un glacier chez soi. Et d'ailleurs, l'installation ne cherche pas à reproduire un glacier, mais plutôt à parler de la disparition finalement de ces glaciers à travers un glacier qui est conservé artificiellement sous une enceinte protégée, un peu comme une culture de glaciers ou comme un laboratoire du vivant fictionnel.
Et que retirez-vous de ce partage avec le public ?
Les personnes qui ont reçu le glacier ont reçu d'abord une œuvre d'art, et en fait ce qui était très très beau dans l'échange, c'est que quand je venais rechercher ce glacier chez les gens avant de le livrer chez les personnes suivantes, on était passé sur le langage du vivant. Donc on avait dépassé finalement le fait d'avoir une œuvre d'art à la maison pour se concentrer sur quelque chose qui est de l'ordre d'un dérèglement climatique, qui est la disparition de ces glaciers qui impacte absolument tout le monde. Et la capacité à toucher à l'intimité de chacun et à l'intime de chacun a été assez énorme, puisqu'il y a des personnes qui l'ont reçu chez eux, qui ont fêté l'anniversaire du décès de leur meilleur ami, par exemple, à ce moment-là, et ce glacier parle d'éternité, parle de la mort, parle d'une transition, et ça a permis d'opérer finalement une transition qui touche bien de l'au-delà de la question de la disparition des glaciers ou de l'œuvre d'art finalement. Donc c'est devenu quelque chose de presque universel finalement pour ces personnes-là qui se sont appropriées le langage poétique que ce glacier amenait dans leur salon. Et puis il y a eu aussi un sentiment de veiller en fait finalement sur ce glacier-là, une mission pour ces gens qui ont reçu le glacier, qui était de veiller sur ce glacier-là. Une petite fille qui quand même tous les matins, quand elle se levait, la première chose qu'elle faisait, c'était d'aller voir si le glacier respirait encore. Qu'on est vraiment encore une fois sur le vivant et sur quelque chose qui s'asphyxie, qui est en train de mourir ou qui est en train de disparaître, et dont il faut absolument prendre soin. Et prendre soin des glaciers, quelque part, c'est aussi prendre soin de notre lien social, c'est prendre soin du vivant, prendre soin de notre appartenance. Et c'est tout ça que le projet a mis en valeur.
Et peut-être pour continuer sur ce que vous êtes en train de dire, quel impact en fait cette œuvre peut-elle avoir sur la représentation des enjeux climatiques ?
L'œuvre j'attache une grande importance au fait que l'œuvre soit quelque chose de très poétique et que les portes d'entrée soient multiples. Donc on peut se poser un certain nombre de questions quand on voit l'œuvre. Est-ce que c'est une œuvre qui interroge notre capacité à réparer le climat en utilisant un certain nombre de technologies ? Est-ce que c'est une œuvre qui présente une vanité ou un objet de collection finalement ? Est-ce que nos glaciers ne sont pas en train de devenir des objets de collection qu'on place sur une étagère ? Ou est-ce que c'est la naissance d'un nouveau glacier ? Est-ce que c'est la volonté de continuer quelque chose qui est en train de disparaître ou de le maintenir artificiellement ? En tout cas, je pense que quand on est face à ce travail-là, on ne peut pas rester indifférent à ce qui est en train de se passer avec les glaciers. Et je pense que c'est notamment lié au fait que l'échelle qui est présentée là est de l'ordre de l'infiniment petit. On est sur un glacier qui fait quelques centimètres de haut, donc vraiment rien du tout à l'échelle planétaire. Et on est sur un glacier dont l'âge se compte en gouttes. Donc si on imagine que ce glacier deviendra quelque chose un jour de volumineux, il va lui falloir des millions d'années pour pouvoir devenir un nouveau glacier, alors qu'il faut à l'heure actuelle 70 ans, 100 ans pour voir les glaciers disparaître.
Et Est-ce que votre œuvre a pour but de continuer, donc là on parle voilà, du glacier qui peut devenir très gros, est-ce que donc ce glacier poétique peut devenir un glacier, un vrai glacier si on peut dire vrai?
Le glacier, enfin, cette œuvre-là n'a pas du tout pour but de devenir un vrai glacier. Il est plutôt là pour alerter de la fragilité en fait, de notre cryosphère, qui est cette peau de glace qui est nécessaire à la stabilité du climat, et mettre en avant évidemment ces problématiques tout en questionnant d'autres problématiques par rapport à ce que je disais, cette question de la planète laboratoire, ou en tout cas le laboratoire du vivant. Une certaine forme d'ironie de toute façon à mettre un glacier sous cloche aujourd'hui. Donc l'idée n'est absolument pas de recréer un nouveau glacier. En revanche, avec le projet d'éleveur de glaciers que j'ai mis en place, se pose la question de l'éternité finalement de ce glacier. Et évidemment, j'ai un souhait, c'est que cette aventure puisse continuer et puisse toucher l'éternel, même si le but n'est pas de recréer un nouveau glacier, mais en tout cas que cette chaîne humaine continue pour prendre soin de ce glacier.
Est-ce qu'on peut considérer votre approche comme de la vulgarisation sur le changement climatique? Et à ce sujet, est-ce que vous pensez que la vulgarisation doit être ludique pour toucher le plus grand nombre?
Je ne suis pas sûr d'être je suis pas sûr de faire de la vulgarisation par rapport au dérèglement climatique. Je raconte des histoires. Un artiste aujourd'hui, son rôle, c'est de, enfin en tout cas tel que je l'entrevois, c'est de raconter des histoires. Et le récit, la notion de récit est très importante pour moi pour faire passer quelque chose de sensible. Il y a une certaine forme de vulgarisation dans le sens où j'explique des phénomènes qui existent, qui sont connus quand même d'un certain nombre de personnes. J'invente rien de nouveau, ils sont là. Le GIEC les exprime très bien, fait aussi un travail de vulgarisation qui est bien plus précis que moi. Moi, j'entre par la porte du sensible. Peut-être pour donner aussi une voix différente aux chercheurs qui ont du mal à se faire entendre aujourd'hui. Et je pense que c'est là où cette installation peut se placer. Et puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de ma personnalité qui est tous mes travaux prennent appui sur des phénomènes que l'on retrouve dans le Grand Nord qui sont d'une fragilité extrême. Et la disparition des glaciers font partie de ces phénomènes extrêmement fragiles. Enfin, pas des phénomènes, mais de cette fragilité qui est en train de disparaître.
On approche de la fin de l'interview. J'ai encore quelque chose à vous demander. Donc, est-ce que vous connaissez la revue Social Terre, où c'est une revue d'expérimentation littéraire? Et donc le numéro hors-série consacré au réveil des imaginaires, dans ce numéro, les écrivains s'interrogent sur le lien entre la science-fiction et la science, ou comment la science-fiction peut participer à la science. Et pensez-vous que l'art aussi participe à la science?
La science-fiction, alors je vais répondre pour moi, la science-fiction fait partie nourrit mon travail. La forme de la cloche, on peut la voir comme étant quelque chose qui fait appel à un imaginaire de laboratoire, mais la cloche en verre, c'est aussi ce cabinet de curiosité qu'on peut retrouver dans certaines littératures finalement de science-fiction. Et je crois que oui, bien sûr, la science-fiction nourrit mon travail, nourrit les chercheurs, mais de la même manière que les chercheurs nourrissent les écrivains de science-fiction. Et la capacité qu'a la science-fiction de se projeter dans des futurs qui sont désirables ou pas désirables, et la question est là, s'appuie évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, les deux se nourrissent de ça. Quand je travaille, je me nourris aussi des travaux des chercheurs, je suis en contact avec eux. Je ne suis pas chercheur à proprement parler, mais les discussions que j'ai avec eux, les échanges que j'ai avec eux, quand ils m'ouvrent des portes de laboratoire, créent mon imaginaire et à moi d'en tirer quelque chose qui va être peut-être sensible, peut-être poétique, peut-être engagé, à une échelle différente. Et après, je crois qu'aujourd'hui, la notion de récit est très importante. Et je crois qu'il faut arriver à tout prix à créer des récits qui permettent d'inventer des futurs désirables de manière à emmener le maximum de personnes dans des changements profonds, qu'ils soient de société, qu'ils soient d'habitude, qu'ils soient par rapport au dérèglement climatique auquel on est confronté aujourd'hui, de manière à pouvoir changer les choses en bien, quoi.
On remercie évidemment Barthélémy et Hortense pour ce moment. On se retrouve tout de suite après un morceau de Frieder Nagel, Into the Open, sur Prune 92 FM.
De 18h à 19h, Prune est en direct de Scopitone avec les artistes de la programmation.
Vous venez d'écouter Into the Open de Frieder Nagel, morceau extrait de l'EP The Arrival, inspiré d'une installation sonore interactive de l'artiste réalisée pendant la pandémie. Nous l'avons accueilli un peu plus tôt, je vous laisse écouter l'interview d'Hortense.
Frieder Nagel, bonjour. Vous êtes musicien-compositeur de musique électronique. Vous avez aussi composé pour des films, des orchestres, du théâtre ou encore de la danse. Aujourd'hui, vous êtes à Scopitone pour nous présenter The Arrival, live son et lumière qui nous promet un voyage intime et mélancolique. Vous avez eu l'idée de The Arrival en grimpant en haut d'un arbre, comme Jack montant en haut du haricot, mais cette fois-ci, pas de géant menaçant, juste le trésor du ciel. Comment se présente l'installation de votre live ?
Could you tell us a little bit about the organization of the live, such as in terms of placing the crowd, the repetition of the room?
So I will be on stage tonight with Mathieu Lesort, also known as Maotic, a visual artist that I really love his work, and it's really filling the whole space with digital art. So he's transferring the frequencies of my music into abstract visuals, and we will be together in front of the screen performing live with a few electronic synthesizers and electronic devices, and we'll try to how do you say, attract the listeners like inside of this artificial surrounding that we everything started with an art installation in Tree once during the pandemic when it wasn't allowed to have an audience. So we installed it outside with no stage and no audience, so that people could pass by and listen it by accident. And we transferred it now to a living audience again. It's really exciting to do that, because of course it's much more natural and really excited to do it. Yeah.
Ce soir, je vais présenter un show avec Mathieu Lesault, aussi connu sous le nom de Maotic. Maotic est un artiste que j'admire beaucoup. Aujourd'hui, il se sert des fréquences de ma musique pour transformer mon travail en de l'art abstrait qui va attirer le public. Donc c'est beaucoup plus naturel que ce qu'on avait avant, puisque le show a commencé dans un arbre où les gens passaient et écoutaient un peu au hasard. Donc j'ai vraiment hâte de passer à un type de show où les gens sont vraiment là.
Votre live combine appareil mélodique et appareillage numérique. Vous auriez pu composer seulement sur ordinateur. Pourquoi avoir gardé vos machines?
I tried to minimize my set and play only with the computer, but I don't know, it doesn't feel right. I don't get that much into the music, and I can justify the live experience more if I'm really live performing. And I think it gives the audience also more feelings.
J'ai essayé de minimiser mon set, mais le feeling ne passait pas. C'est-à-dire que ça ne semblait pas naturel. Grâce à cette façon de jouer, je trouve ça beaucoup plus naturel et ça attire beaucoup plus l'audience et ça permet au public de vraiment ressentir plus d'émotions. Ça justifie beaucoup plus le côté live de la performance si je joue vraiment devant l'audience.
Vous êtes musicien autodidacte, ces machines vous accompagnent-elles depuis longtemps?
Yeah, I'm always changing my setup, but I was spending like 8 years or so before going on stage or performing live just with my machines alone at home. So yeah, a long time, you can say.
Je change mon set régulièrement, mais ça fait à peu près 8 ans que je joue live avec ces machines. Donc on peut dire que ça fait pas mal de temps.
Et qu'apporte la combinaison appareillage numérique et appareils musicaux à cette création, à The Arrival?
Everything begins with improvisation. So I normally work at night and just improvise and try to get into a certain state of mind without judging or evaluating, and just doing music in a very pure sense. And then after that I analyze what I've done, and I cut it and I compromise it, and then that's where the numeric part comes in, and I arrange everything and I analyze it and I put effects on it and I arrange it to pieces, so I have this really organic beginning, this intimate improvisation part, and then it's really organized into a piece, like a composition in a traditional sense.
Tout commence avec de l'improvisation, donc je commence à jouer le soir sans trop réfléchir, sans trop théoriser ce que je fais, pour que ce soit le plus organique possible. Puis après vient la partie numérique où j'analyse ce que j'ai fait et je réorganise le tout.
So the electronic music instruments, I use like classical instruments. I sit there and play them without any computer in mind, just like traditional instruments. And I improvise and I record it, and I just use the computer just as a recording device. And then once I have all the material and I go sampling outside in the woods, I improvise and I use all sorts of instruments. But then when I compose and I go into the computer and into the analytic part, then it goes really abstract and numeric, and I do, that's the stage where I do electronic music out of yes, electronic instruments, but I played them really live, and then it comes to really abstract electronic music afterwards. And that can take, like, the improvisation can take just half an hour or maybe 1 hour or 2 hours, and the process afterwards, the programming and deconstruct and everything, can take weeks until months or sometimes years. Yeah.
Je commence par jouer avec des instruments traditionnels où j'improvise, je ressens plus la musique. Puis ensuite, bon, à ce moment-là, j'enregistre ce que je fais grâce à un ordinateur. Mais c'est vraiment ensuite que vient le côté numérique où j'analyse tout ce que j'ai fait, je réarrange le tout. Et on peut dire, et après je joue en live, en public, mais on peut dire que... la partie improvisation avec les instruments traditionnels prend peut-être une demi-heure, une heure ou deux heures, alors que la partie numérique peut prendre des semaines, voire des mois.
So when I perform live, I want to take the audience inside this little magic moment when I perform at home and improvise, and I have all that programmed and perfectionized programmed music in behind now. After the process, and it's like my backing, it's like my orchestra on stage, and on top of that, now I go back to this first stage where I just improvise and I just try to feel the moment. So I take my listeners to this primal idea where the music began, but at the end of the process with the whole full completed track. So that's the idea.
J'essaye avec ma musique d'entraîner mes auditeurs vers ce moment du départ où j'improvise pour que vraiment ils puissent ressentir ce que moi j'ai ressenti. Puis après, même si tout le morceau est réorganisé numériquement, je rejoue par-dessus en deuxième étape avec des instruments traditionnels. Donc même si j'apporte quelque chose de fini, j'essaye d'emmener mon audience vers cette première étape d'improvisation, de découverte.
Et justement, ce live s'adresse-t-il à un public justement d'amateurs de musique?
I target everybody who wants to come and listen to the music. I don't. I try to not have a distinguished listener in mind, but just find emotions that we all can relate to and really go from universal human emotions and try to express them. So the more people I can target from different backgrounds, the better.
Je ne vise pas une personne en particulière avec ma musique. J'essaye surtout de recréer des sentiments un peu universels. Alors, le plus de gens que ça peut toucher, surtout le plus d'auditeurs de milieux différents, le mieux c'est.
Le descriptif du live nous prévient que Rival va chambouler notre perception de l'espace. En quoi votre collaboration avec Maotic rend vrai cette proposition?
What Maotic does really well is to create inside of a really digital abstract visual art piece. He creates a world that feels really organic and like kind of he creates feeling that you can't describe but you feel really at home with. And so yeah, the thing is, if you listen to the set for a long time, there's a lot of drone sounds and a lot of abstract noise sounds. So at the beginning, you have the feeling of watching something and you try to understand the pictures that you're seeing and that done. And the end, what we hope is to achieve that you lose yourself inside of the music and also inside of the visuals, that you stop making sense of what you see, but more like just watch it like you watch the sunset or a natural phenomenon like trees or natural beauty, and not so much like an abstract thing to analyze but more like a natural phenomenon to feel. So that's what we want to achieve. Yeah.
Ce que Maotic fait vraiment très bien, c'est de créer une genre de bulle où il y a un sentiment assez indescriptible qu'on ressent tous mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer, comme par exemple se sentir chez soi. Ce qu'on essaye de faire dans ce morceau, c'est qu'on utilise beaucoup de sons abstraits comme des sons de drone et le but est que le public se perde un peu dans l'espace et dans la musique. Ce travail est plus pour être... ce morceau est plus pour être ressenti qu'analysé. On espère que le public pourra se perdre dedans, un peu comme quand, comme on admirerait un coucher de soleil ou un phénomène naturel comme un beau paysage, plutôt que quelque chose qu'on analyse.
On remercie Frieder Nagel et Hortense, et bien sûr notre traductrice Andrea pour cette chouette interview. On va s'écouter Dama de Malcolm et Glitter sur Prune 92 FM.
De 18h à 19h, Prune est en direct de Scopitone avec les artistes de la programmation.
Toujours en direct sur Prune, vous venez d'écouter Dama de Malcolm et Glitter, une collaboration issue de l'EP Baptême de Malcolm où l'artiste Glitter chante pour la première fois. C'est bientôt la fin, mais avant ça, Titouan, tu voulais nous dire quelques mots?
Oui, on vous avait annoncé en début d'émission une interview de Bird Signals for Earthly Survival avec les deux artistes Mehmet Aslan et Glitter, mais des soucis techniques les retiennent actuellement au Warehouse. Donc je vous recommande quand même d'aller voir la performance à 20h au Warehouse. Donc découvrir une œuvre qui se veut sur le fond un cri d'alarme écologique par rapport à la situation qu'on connaît bien et sur le combat écologique qu'on est en train de perdre, et sur la forme, une nouvelle manière d'appréhender la musique, ici par le visuel et l'audiovisuel. À ce soir, 20h au Warehouse.
Très bien, c'est noté. C'est l'heure de se quitter. Merci au Stereolux de nous avoir accueillis. Un grand merci à nos invités d'avoir accepté d'être venus, et un merci aussi à toute l'équipe de Prune qui nous a aidé à monter ce plateau. N'hésitez pas à aller voir, à faire un tour au festival de Scopitone qui a lieu en ce moment même jusqu'au 19 septembre. Plus d'infos sur leur site stereolux.org. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur prune.net. Nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pour la dernière émission dédiée au festival. On se quitte avec le morceau Alt Lad de Nazar et Brodinski, extrait de l'EP 4 Thunes, sorti en août 2021. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver au pôle étudiant de l'université le jeudi 16 septembre à 19h. Très bonne soirée à vous sur les antennes de Prune.
écouter ou réécouter cette émission spéciale en direct du Festival Scopitone, c'est sur prune.net.